poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Que trouve-t-on à la maison du protestantisme ? 1000 informations concernant tant le local ou le régional que l'international. Ainsi trouve-t-on des informations sur la CEVA, Communauté d'Église en Mission, sur le prochain spectacle au Musée du Désert, ou encore sur divers camps pour les jeunes. Cette émission évoque aussi l'aumônerie aux armées de la Fédération protestante de France et s'attarde sur le dossier de la presse régionale protestante du mois de juin, Église et réseaux sociaux. Informations locales et régionales. À Nîmes, si vous cherchez un endroit pour vous informer sur le protestantisme, le mieux c'est de vous rendre à la maison du protestantisme située 3 rue Claude Brousson, tout près de la maison carrée et à côté du fameux Petit Temple, lequel petit temple vient d'être inauguré après les gros travaux qui ont été entrepris récemment. Le 18 juin dernier, donc, inauguration du petit temple avec la pièce de théâtre « Le grand écart » qui y a été jouée devant un public nombreux. Pour joindre la maison du protestantisme, vous pouvez composer le numéro de téléphone suivant 04 66 67 97 40 ou envoyez un courriel à mdp.nimes@free.fr. À la maison du protestantisme, vous pourrez être accueilli le matin du mardi au vendredi de 9h30 à midi, l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à midi. La bibliothèque de la maison du protestantisme est ouverte le vendredi de 14h à 16h. Vous pouvez y trouver des collections de Bibles, des livres anciens, des livres de théologie ou relatives à la vie de l'Église protestante unie de Nîmes et des Cévennes. Le prêt de livres est gratuit. Informations et propositions de dons de livres en rapport avec nos collections à l'adresse suivante mdpbiblio@gmail.com. mdpbiblio@gmail.com. Sur le comptoir d'accueil de la Maison du protestantisme, divers tracts et brochures d'information sont à votre disposition. En voici un que j'ai découvert tout récemment. Il est sobrement intitulé S plus S, soit Solidarité Santé. Voici de quoi il s'agit. Le programme Solidarité Santé, PSS, fait suite à une rencontre qui a rassemblé les responsables des formations sanitaires de quelques églises d'Afrique subsaharienne, membres de la communauté des églises en mission, en 2014. Sur le thème « Église et santé », il en est ressorti que les prestations des centres hospitaliers possédés par les églises de la communauté des églises en mission contribue largement à l'amélioration de la santé de la population de leur région et participe à la visibilité de chacune de ces églises. C'est dire que leur évolution est nécessaire. Il y a lieu de les accompagner pour donner du sens aux valeurs prônées par la communauté, telles que le développement holistique ou total. Passé récemment de projet à programme, le PSS vise de multiples objectifs. Le renforcement des liens communautaires, la recherche d'une synergie de travail en vue d'accroître les performances et la visibilité de la diaconie sociale de l'Église. Le programme Solidarité Santé est mis en place grâce au partenariat avec l'Église évangélique vaudoise d'Italie, dont l'organisme intitulé Otto per Mille permet le financement des projets de chaque hôpital. Le programme concerne 10 hôpitaux et centres de santé et un hôpital partenaire. Le travail fait au niveau de la communauté des églises en mission est reconnu et apprécié par la communauté. Il permet de vivre l'Évangile et de rendre visible le témoignage de l'amour et de l'espérance. Ce travail comporte 5 axes stratégiques. Le témoignage et la solidarité, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles et financières, le partenariat, l'évaluation. Outre un soutien spécifique à chaque établissement, le programme propose également des activités communautaires qui sont en lien avec les axes stratégiques. Des séminaires sont ainsi organisés sur le renforcement de capacités des médecins et des aumôniers, sur l'organisation en réseau de ces agents de santé, sur les responsables des ressources humaines et financières ou sur le traitement des déchets, entre bien d'autres. Par ces projets et ces rencontres, le programme vise la recherche de la performance et la pérennité de ces formations sanitaires, mais aussi de poursuivre sur les 3 grands axes de la CEVA, Communauté d'Église en Mission, ces trois axes étant partager, agir, témoigner. Voici une liste rapide des pays où se trouvent ces hôpitaux du programme. Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Bénin, Zambie, Lesotho, Rwanda, Sénégal, Congo. Sur le comptoir de la Maison du Protestantisme, j'ai trouvé aussi un tract sur les camps baladins, été 2026. C'est une organisation qui propose divers camps pour des 7-11 ans, des 11-14 ans et des 14-17 ans, qui ont lieu le premier du 5 au 19 juillet à l'Espérou, le second pour les 11-14 ans du 12 au 26 juillet à Bouillac, dans l'Aveyron, et le troisième, c'est un camp pour les 14-17 ans, c'est un camp itinérant avec un départ et une arrivée à Alès. Pour joindre les responsables de ces camps, vous pouvez écrire à contact@campbaladin.fr. Camp Baladin, CAMPSBALADINS. Le troisième tract que j'ai trouvé sur le comptoir de la Maison du Protestantisme concerne les Lanternes de l'Exil, un spectacle déambulatoire et immersif qui prendra vie dans le cadre historique du parc du Musée du Désert à Mialé. Plus de 80 comédiens vous feront revivre une page de l'histoire cévenole. Ce spectacle sera présenté le jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juillet. Le nombre de places est limité, donc il est important de réserver assez vite. Vous pouvez le faire en allant sur le site www.lesparpaillots.fr. Vous pouvez aussi téléphoner au numéro suivant 06 56 73 13 63. Je répète, 06 56 73 13 63. Fédération protestante de France, aumônerie protestante aux armées. Depuis le 1er juin 2026, Nicolas Thévenet exerce la responsabilité d'aumônier en chef du culte protestant aux armées. Il succède à Étienne Wächter après 9 années d'engagement dans cette mission. Pasteur depuis 2012, Nicolas Thévenet a rejoint l'aumônerie protestante aux armées en 2017. Il a depuis accompagné les militaires au sein de plusieurs unités en France, mais aussi en opérations extérieures, notamment au Tchad, au Mali et au Liban. À travers cette nomination, c'est un parcours associant engagement pastoral, expérience opérationnelle et ouverture internationale qui est appelé à conduire l'aumônerie protestante aux armées dans les années à venir. Son culte d'installation aura lieu début octobre. Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations et lui souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle mission au service des militaires, de leurs familles et de l'ensemble de la communauté de défense. En temps de paix comme en opération extérieure, les aumôniers militaires apportent un soutien moral, humain et spirituel au personnel civil et militaire du ministère des Armées et ou de la Gendarmerie nationale, comme aux familles. Ils conseillent également le commandement dans leur domaine de compétences. Fidèles à leur engagement, ils œuvrent dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de respect des convictions de chacun. À ce jour, l'aumônerie protestante aux armées compte près de 63 aumôniers, dont 31 à plein temps. Réseaux sociaux. Lorsqu'on aborde les réseaux sociaux, le sujet fait autant peur qu'il attire. On dit souvent que les plus âgés ne les maîtrisent pas et que, d'un autre côté, ce serait un moyen efficace pour attirer les jeunes vers les églises. L'Église a décidé d'investir plusieurs médias pour faire entendre sa voix particulière. Il y a des réticences, mais aussi un réel engouement pour ces nouveaux médias. Au fil de ce dossier, nous vous proposons de réfléchir à la place des réseaux sociaux dans une démarche d'évangélisation, mais aussi comme moyen de communication externe moderne. L'Église 2.0, entre tradition et modernité, ou comment la parole devient image. Telle est l'introduction de ce dossier sur les réseaux sociaux paru dans la presse régionale protestante. C'est Chloé Monet du magazine Ensemble qui ouvre ce dossier avec une présentation de Mark Zuckerberg, l'homme qui a vendu le monde. Les réseaux sociaux se proposent de répondre à des besoins qu'ils ont amplifiés et transformés. Retour sur l'histoire de Facebook, modèle de tous ceux qui existent aujourd'hui. Campus d'Harvard 2004, Mark Zuckerberg a 19 ans. Passionné par les innovations informatiques, il vient d'en faire un usage combinatoire pour créer The Facebook, un trombinoscope en ligne où chacun rédige sa propre fiche de renseignement, dispose d'une messagerie et peut être ami avec les autres, ce qui lui vaudra son nom de réseau social. Son but est de mettre en relation les étudiants de cet immense campus qui se croisent sans se connaître. Le succès qu'il rencontre encourage Mark Zuckerberg à offrir son réseau social à toutes les universités américaines, puis au grand public. Lorsque Facebook arrive en France en 2007, les gens apprécient de pouvoir y retrouver des amis perdus de vue, de partager photos et vidéos avec leurs relations, mais aussi de lier connaissance avec les amis des amis, de trouver une vitrine gratuite pour leurs activités. Les grands-parents, éloignés de leurs petits-enfants, ont pu les voir grandir à distance. La solidarité y est devenue plus facile. Les abus en tout genre aussi. Le pari de Facebook consiste à proposer une sociabilité facilitée à des gens ayant de moins en moins de temps libre. À nos besoins de discussion, de partage, de reconnaissance et d'estime, d'appartenance à une communauté, de légitimation et de validation sociale, le réseau a répondu par la messagerie instantanée, la mise en ligne de photos et vidéos, la création de groupes d'amis et la possibilité d'évaluer des contenus en leur attribuant des « likes »,« j'aime », en quelques interactions simples et rapides, un ersatz de sociabilité. Les gens ont apprécié de communiquer sans bouger de chez eux, derrière un écran désinhibant et libérateur, pour le meilleur comme pour le pire. La possibilité d'évaluer le contenu des autres avec une icône, un simple pouce bleu levé, sans discussion, a fait de la validation sociale un jeu simplifié à l'extrême, permettant de faire plaisir à l'auteur sans se poser de questions. Le bon vieux principe « nous vous vendons la solution au problème que nous créons » n'est-il pas à l'œuvre? Le filon des données. Car le modèle économique de Facebook, précisé dans les conditions d'utilisation, repose en effet sur une collecte et un profilage de données vendues à des sociétés publicitaires. Ces données sont recueillies et traitées par les algorithmes du réseau. Il en résulte notamment les fameux calculs prédictifs pour recommander à des utilisateurs aux profils semblables des contenus semblables. Ainsi, les annonceurs rémunèrent Facebook pour diffuser un message auprès d'une cible qu'ils sont certains d'atteindre. Parce que Facebook a besoin de données, il encourage l'addiction par l'apparition constante de contenus en adéquation avec vos goûts sur le fil d'actualité. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes se connectent quotidiennement à Facebook. Aux États-Unis, en mars dernier, le groupe Meta, Facebook et Instagram, a été condamné par la justice pour mise en danger de mineurs, ces algorithmes ayant été reconnus intentionnellement addictifs pour générer du profit. Selon Forbes, la fortune de Mark Zuckerberg s'élève actuellement à 246 milliards de dollars. Nicolas Boutier, rédacteur en chef du magazine Le CEP, s'intéresse quant à lui au comportement de l'Église protestante unie de France vis-à-vis des réseaux sociaux. Entre nécessité de visibilité et quête de sens, l'Église protestante unie de France a massivement investi les réseaux sociaux. Si la présence numérique est devenue un pilier du témoignage chrétien au XXIe siècle, elle soulève aujourd'hui des interrogations éthiques majeures. Peut-on réellement évangéliser par écran interposé sans y perdre son âme? La présence de l'Église sur Facebook a-t-elle une portée réelle? Se demande-t-il. Ou encore, sait-on parler au monde? Il rappelle et constate que la gestion des réseaux devient un fardeau. Au sein des instances de l'Église, le débat s'intensifie. Faut-il continuer à alimenter des plateformes dont le modèle économique repose sur la captation de l'attention et la marchandisation des données? Certains voient dans l'utilisation de X ou de Facebook une compromission avec un système qui comporte en lui un modèle économique bien éloigné des valeurs de l'Église. Nicolas Boutier se demande aussi si, face au virtuel, la théologie ne risque pas de se désincarner. Si la parole peut circuler par les ondes, peut-on réellement faire Église derrière un écran de smartphone? Il termine son article en suggérant que l'on aille vers une sobriété numérique engagée. L'enjeu pour le protestantisme français dans les années à venir sera de cultiver une éthique de l'algorithme. L'idée n'est pas de déserter le monde digital, ce qui reviendrait à devenir invisible, mais d'y habiter avec discernement. Cela passe par une éducation aux médias et par une présence qui privilégie la profondeur au buzz. En définitive, l'Église protestante unie de France cherche sa voie entre modernité technique et fidélité à ses racines. Elle tente de prouver que l'on peut utiliser les réseaux sociaux pour injecter de l'écoute et de la bienveillance dans un système conçu pour le conflit. Mais elle rappelle aussi, par sa persistance à entretenir ces lieux physiques, que la vie de foi ne se télécharge pas. Elle se vit dans le contact, le silence partagé et la présence réelle de l'autre et à l'autre. Deux autres articles complètent ce dossier. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusée le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.